Chapitre 2. Du fait des fuseaux horaires, la matinée était à peine entamée lorsque Nathan Silverman atterrit à l'aéroport d'Austin, au Texas. Il récupéra sa voiture de location et quitta la ville en empruntant la 290. L'autoroute entama rapidement l'ascension du plateau d'Edwards, au milieu d'un décor qui laissait davantage d'espace au ciel qu'aux vastes plaines texanes. Il avait souvent eu l'occasion de travailler le week-end au cours de sa carrière. Mais c'était la première fois qu'il menait une enquête clandestine un samedi. C'était également la première fois qu'il prenait en charge personnellement ses frais de déplacement, sans grand espoir d'être remboursé un jour. Il n'avait pas même pris la peine de demander si l'un des Gulfstream 5 du bureau à destination du Texas avait encore un siège de libre. Les jets du FBI servaient essentiellement lors des enquêtes liées au terrorisme. Ils devaient être monopolisés par l'attentat de Philadelphie. En outre, le ministre de la Justice avait autorité sur le bureau et les trois derniers occupants du poste utilisaient souvent les Gulfstream pour leur usage personnel sans s'embarrasser de considérations éthiques. Silverman se laissa guider par la voix mélodieuse du GPS jusqu'à un chemin privé que fermait un portail surmonté d'une structure en fer forgé épelant le mot « Hawk ». Au-delà, le GPS ne lui serait plus d'aucune utilité. Un ruban de macadam semé de nids de poules recouvrait l'ancien chemin de terre, bordé de clôtures à bétail, au bord duquel poussaient çà et là des chênes. Le paysage était constitué de prairies grasses. D'un côté broutaient paisiblement des vaches tachetées, de l'autre paissaient des moutons. Le ranch lui-même, une maison au clin de bois peint en blanc protégée par des chênes vénérables, se dressait à l'écart entre une immense grange et des étables ombragées. Un pick-up Ford 550 et un camion à Riddell étaient garés un peu plus loin sur un parking gravillonné. Nathan rangea sa voiture de location près des deux véhicules, gravit les quelques marches de la véranda et sonna. La tiédeur de l'air était agréable, tout en donnant le sentiment d'un équilibre précaire. Il avait eu l'occasion de rencontrer Claire et Ansel Hawk, les parents de Nicolas, lors du mariage de Jane et Nick en Virginie 7 ans plus tôt. Il était peu probable qu'il se souvienne de lui. Claire Hawk lui ouvrit la porte, une cinquantenaire grande et mince, pleine de charme, aux cheveux grisonnants coupés courts, vêtue d'un jean, d'un chemisier blanc et de bottes. « Monsieur Silverman, vous êtes bien loin de Quantico. »«
Je suis surpris que vous me reconnaissiez, Madame Hawk. »
« Nous attendions votre appel, ou au moins celui de quelqu'un de chez vous, et voilà que vous sonnez à notre porte. C'est moi qui suis surprise. »«
Je suis désolée pour Nick. Je souhaitais vous présenter toutes mes... »
Elle l'arrêta d'un geste. « Je ne tiens pas à en parler. De toute façon, vous n'avez pas traversé la moitié de l'Amérique pour me présenter vos condoléances. Entrez. »
Il traversa à sa suite la maison plongée dans la pénombre jusqu'à la cuisine dont la table était couverte de livres de comptes et de reçus.
« Je suis en train de faire ma compta, une tâche que je déteste mais qu'il faut bien accomplir. Si je n'arrive pas à tout boucler aujourd'hui, je hurle. Et j'imagine que vous aimeriez discuter avec Ansel. Il se trouve à l'écurie avec le vétérinaire. L'un de nos chevaux préférés boite. »
« À vrai dire, Madame Hawk, c'est avec vous deux que je souhaiterais m'entretenir. »
Elle lui sourit. Avec tous les chiffres qui se bousculent dans ma tête, j'aurais du mal à tenir une conversation normale. Et si vous voulez bien attendre Ansel dans la véranda, il n'en a pas pour longtemps. Puis-je vous offrir à boire un soda, de l'eau, du café?
Derrière son amabilité, Nathan sentait poindre de la méfiance.
Je veux bien un thé glacé si ça ne vous ennuie pas.
Elle lui tendit une bouteille qu'elle venait de prendre dans le réfrigérateur et le conduisit jusqu'à la véranda où l'attendait un rocking chair. Ansel Hawk émergea de la cuisine 10 minutes plus tard. Silverman se leva en se demandant pourquoi il s'étonnait de voir son hôte avec un chapeau de cow-boy. Les deux hommes se serrèrent la main.
« Comment va votre cheval ?» s'enquit Silverman.
« Il souffre d'une synovite de la phalange distale de la patte antérieure gauche. Le mâle a été pris à temps, il n'y a pas de risque. C'est une bonne vieille bête, on se connaît bien tous les deux. »
Ansel Hawk était un homme massif doté de mains puissantes, usées par le labeur. Le vent et le soleil s'étaient chargés de buriner ses traits.
Vous vivez dans un bien bel endroit.
C'est vrai, reconnut l'éleveur. Mais vous n'êtes pas venu me parler de mon ranch.
Je ne suis pas en mission officielle, même si ça peut le devenir par la suite. Je m'inquiète au sujet de Jane.
Le regard d'Ansel, qui offrait son visage de profil à son visiteur, se perdit dans le lointain.
Quoi qu'elle fasse, elle sait ce qu'elle fait. Vous la connaissez.
Silverman laissa s'écouler un instant avant de poursuivre.
Vous a-t-elle laissé son petit garçon ?
Non, monsieur, et c'est la vérité.
J'ai cru comprendre qu'elle avait peur pour lui.
Si c'est le cas, elle a probablement raison.
Pourquoi l'enfant serait-il en danger ? Qu'il menace ?
Le monde est un endroit dangereux, monsieur Silverman. La paix y trouve rarement sa place.
Je ne serai pas en mesure de la protéger si elle se met hors la loi, monsieur Hawk.
Elle ne vous le demandera jamais.
Silverman posa sa bouteille de thé à moitié vide à ses pieds. Je suis un ami, pas un ennemi.
C'est bien possible. Je n'en sais personnellement rien.
Je ne serai pas en mesure de l'aider si je ne sais pas de quoi elle a besoin.
Si elle estime que votre aide lui est nécessaire, elle fera appel à vous.
Elle a été mêlée à un incident en Californie. Elle se trouve impliquée dans une affaire grave.
Je ne suis pas au courant. Vous en savez davantage que moi, monsieur Silverman. C'est moi qui devrais vous tirer les vers du nez.
Vous êtes bien texan, s'agaça Silverman.
Vous avez déjà été confronté à des gens de chez nous, c'est ça ?
À plusieurs reprises.
Alors vous saviez à quoi vous attendre.
Silverman quitta le fauteuil à bascule, s'arrêta devant la rambarde de la véranda et plongea son regard dans l'immensité des prairies jusqu'à l'horizon. Il avait grandi en ville et les grands espaces le mettaient mal à l'aise. Comme si les lois de la gravitation n'étaient pas de mise ici, comme si le ranch et tout ce qui n'était pas enraciné dans la terre, y compris lui-même, était sur le point de s'envoler dans l'immensité du ciel.
La mère de Jane est morte. Elle ne voit plus son père.
À part vous, elle n'a personne,
déclara-t-il en tournant le dos à son hôte.
Si vous croyez que ça ne nous inquiète pas avec Claire, on l'aime comme si c'était notre propre fille.
Alors ?
Alors elle ne s'adresse pas à nous parce qu'elle a peur de nous mettre en danger. Dans votre cas, elle n'a pas forcément les mêmes raisons.
Silverman se retourna vers l'éleveur.
Vous voulez dire qu'elle ne fait pas confiance au bureau ?
Les yeux gris clair d'Ansel Hawk étaient couleur de pluie sur une vieille planche de cèdre.
« Asseyez-vous un instant. »
Silverman obtempéra.
Aucun des deux hommes ne bougeait sur son rocking chair. À part la litanie des cigales, tout était silencieux.
« Vous allez coopérer avec moi, oui ou non ?» finit par s'impatienter Silverman.
« Donnez-moi le temps de réfléchir. Jane éprouve le plus grand respect pour vous, sinon vous ne seriez plus ici depuis longtemps. »
Des citelles volèrent devant la véranda en piaillant avant de disparaître dans les trous d'un énorme chêne planté au coin de la maison. On aurait dit qu'elles cherchaient un refuge avant que le temps ne change.
« Nick ne s'est pas suicidé, »
déclara l'éleveur.
Mais Jane a découvert son corps elle-même et le médecin légiste. « Le nombre des suicides a brusquement augmenté l'an dernier, »
l'interrompit Hawk.
« Il est actuellement en hausse de plus de 20%. »
« Le pourcentage des suicides fluctue au gré des ans, comme celui des crimes de sang. »«
Il ne s'agit pas d'une fluctuation, mais d'une augmentation très nette. Il y a de plus en plus de suicides, des gens qui n'ont aucune raison de mettre fin à leur jour, comme notre Nick. »
Silverman haussa les sourcils.
Un suicide est un suicide.
Pas si on pousse les gens à se tuer. Jane a voulu en savoir plus, alors ils sont venus chez elle et ils ont menacé de violer et tuer Travis si elle n'abandonnait pas son enquête.
Il ? Qui ça, il ? Demanda Silverman, stupéfait d'entendre un homme aussi terre à terre évoquer sérieusement un tel complot.
C'est bien ce qu'elle cherche à savoir.
Excusez-moi, mais si vous n'avez pas de tendance suicidaire, personne ne vous fera
« Jane ne ment qu'au menteur, et je n'en fais pas partie. »
« Je ne remets pas en cause votre bonne foi,
Sans vouloir vous vexer, monsieur Silverman, je me fiche éperdument de ce que vous pensez de moi. »
L'éleveur se leva.
« Je vous ai dit le peu que je savais. Libre à vous d'aller creuser plus loin ou non. »
Silverman se leva à son tour.
« Si vous avez le moyen de joindre Jane, ce n'est pas le cas. La vérité, c'est qu'elle ne fait confiance à personne au bureau. Vous seriez bien inspiré de l'imiter. Vous pouvez toujours nous mettre la pression avec vos agents, vos avocats et vous envoyer de l'enfer. Vous ne tirerez rien d'autre de nous. Maintenant, je vous prie de ne pas passer par la maison en vous en allant. »
Sur ces mots, Hansel Hawk poussa la porte de la cuisine et la referma derrière lui. Tout en regagnant sa voiture, Silverman tenta de comprendre à quel moment il avait perdu la confiance de l'éleveur. À bien y réfléchir, ce n'était pas en doutant de ses propos, mais en remettant en cause la thèse de sa bru.
« Ça ne me dérange pas si vous ne me croyez pas, mais ne vous avisez pas de critiquer Jane, » semblait lui dire l'éleveur.
Il achevait de contourner la maison lorsque des rafales d'un vent chaud chassèrent le soleil et firent naître des ombres par vagues sur la prairie, une illusion d'optique due au cirrus qui traversait le ciel par glissements saccadés. Silverman, oppressé par l'immensité du vide qui l'entourait, regretta soudain d'avoir quitté sa maison d'Alexandria, au cœur de la métropole.